Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et c'est le verset 14 qui nous intéresse ce matin, mais je vais lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Donc ce passage, c'est une série de recommandations pour les chrétiens de Thessalonique. Et donc pour tous ceux qui veulent vivre pour le Seigneur. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 5, et je commence au verset 12. Il dit, nous vous prions frères. Donc un frère, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur, qui a reconnu qu'il est pécheur, et qui accepte la grâce de Dieu, qui accepte le fait que Christ soit mort sur la croix pour payer pour ses péchés. Il dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Le verset 12, nous vous en prions aussi, frères, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans la débauche, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Dans une assemblée, même celles qui sont conformes à l'intention de Dieu pour le chrétien, composées de personnes qui aiment le Seigneur, qui vivent pour le Seigneur, qui recherchent le Seigneur, qui veulent glorifier le Seigneur, comme il nous parle ici dans le verset 12 et 13, il nous parle de ceux qui œuvrent fidèlement. Mais il dit aussi qu'il y a des personnes qui ont des difficultés dans leur marche chrétienne. Et c'est justement de cela qu'il parle dans le verset 14. Il parle de ceux qui vivent dans le désordre, de ceux qui sont abattus, de ceux qui sont faibles. Et il nous dit qu'à leur égard, d'avoir de la patience. Exercer de la patience. Il dit, avec eux, vous savez, dans le monde, si on n'est pas à la hauteur, eh bien on est rejeté. Tu n'es pas bon au foot, eh bien, pousse-toi. Tu ne sais pas faire ceci, alors éloigne-toi. Dans notre monde, c'est si tu n'arrives pas à suivre, alors pousse-toi. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, il nous dit, tu as du mal, eh bien, il dit aux autres, eh bien, ayez de la patience avec eux. Soutenez-les, encouragez-les. Exercez de la patience. Et il est bon de voir ce mot patience en tant que chrétien. Dans le monde, le mot patience, c'est devenu un mot très faible, et qui ressemble plus à du fatalisme qu'autre chose. Mais dans la Bible, la patience, eh ben, c'est une expression, l'une des expressions du fruit de l'esprit. Hein, il nous dit que l'esprit produit l'amour, et l'amour a plusieurs manières de s'exprimer, dont la patience. Hein. C'est la patience est animée par l'amour. Quand on aime, on est plus patient. Quand on s'aime soi-même, on n'est pas patient avec les autres. Et Moïse, La Bible dit que c'était l'homme le plus patient du monde. Mais il n'a pas toujours été patient. Mais il est devenu patient parce qu'il a passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et finalement, plus il s'accaparait de la pensée de Dieu, plus il devenait patient. Et c'est de cette patience-là qu'il nous parle. Si nous sommes animés de l'amour de Dieu, eh bien, nous serons patients. Et quand nous sommes patients, si nous sommes patients, c'est parce que nous anticipons quelque chose. On est patient en vue de quelque chose. Hein, c'est que si je suis patient, parce, ben, j'attends le bus, eh ben, je sais que le bus va venir. Hein, sinon, ce n'est pas la peine d'être patient. Donc, quand je suis patient, c'est parce que je crois que quelque chose va arriver. Et lorsque je suis animé de la patience de Dieu, c'est que je sais que Dieu va œuvrer. Peut-être ça va prendre plus longtemps, peut-être ça aura des parcours sinueux, mais ça va se faire. Et donc, en fait, la patience, c'est une manière d'exprimer la confiance dans l'œuvre de Dieu, que Dieu va le faire. Hein, vous avez entendu les deux témoignages. Et entre la première fois qu'ils ont entendu et la fois où ils ont vraiment saisi, il y a eu du temps. Mais Dieu est patient, pas de problème, continue. Et c'est cette patience-là, Dieu est patient avec nous. Et donc la patience n'est pas de se résilier à la fatalité des circonstances et puis des décisions que les autres peuvent prendre, de dire c'est comme ça, hein, la vie c'est comme ça. C'est pas le croyant, il ne pense pas comme ça. Et puis le croyant, quand il pense aux autres, il ne pense pas comme ça non plus. Il dit non, Dieu peut faire, Dieu peut intervenir. Faisons-lui confiance, il va faire son œuvre. Peut-être c'est pas toujours aussi vite qu'on voudrait, mais c'est sûr. Et comprenez que Dieu n'est pas pressé comme nous le sommes, parce que lui, il n'est pas sous la pression du temps. Donc la patience, c'est une confiance en Dieu. Et elle est disposée à attendre jusqu'à la réalisation. La patience, eh bien, elle est là. Et nous devons l'exercer, il nous dit dans ce passage, il dit, vous devez l'exercer avec ceux qui vivent dans le désordre, plutôt que condamner, être dur, exercer de la patience avec ceux qui vivent dans le désordre. Il dit, exercer de la patience avec ceux qui sont abattus, exercer de la patience avec ceux qui sont faibles. Combien de fois, la chose naturelle chez les humains, c'est on veut expliquer quelque chose, le gars il ne saisit pas, mais t'es nul. Laisse tomber. Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu il dit, écoute, tu n'as pas compris la première fois, ben écoute, je vais t'expliquer autrement. Et puis je t'explique encore autrement. Et puis si nous savions combien de fois le Seigneur, combien de fois il a essayé de nous expliquer des choses avant qu'on comprenne, hein, heureusement qu'il n'est pas un homme. Et heureusement que ce n'est pas l'homme qui l'a créé, hein. Parce que sinon, il ressemblerait aux hommes. Vous savez, les gens, ils disent, ah ouais, Dieu, c'est une création de l'imagination de l'être humain. Eh bien, si c'est l'été, il ressemblerait aux êtres humains. Il se comporterait comme les êtres humains. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas nous qui l'avons créé, c'est lui qui doit faire son œuvre de transformation en nous. Alors, l'apôtre Paul, ici, il voit trois catégories de personnes qui peuvent être dans l'Église. Hein, c'est des gens, il les condamne pas, mais ils sont là. Hein, et il dit, il y a ceux qui vivent dans le désordre, il y a ceux qui sont abattus, il y a ceux qui sont faibles. Mais il dit, ayez de la patience avec tous. Bien sûr, la question maintenant que je vais me poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire vivre dans le désordre? Parce que peut-être si on demandait à chacun il aurait une autre notion de ce que c'est que le désordre. Mais ici, le mot, quand il parle du mot désordre, eh bien le mot désordre, et je fais appel au dictionnaire grec, le mot désordre, eh bien c'est un terme militaire. Parce qu'on a des gens qui ont fait l'armée, là, ils doivent comprendre. Mais c'est un terme militaire. C'est vivre dans les deux, ça veut dire c'est ne pas être dans les rangs. Moi, j'étais de l'époque à l'école où il fallait s'aligner avant de rentrer en classe. Et une expression de l'instit, c'était toujours « je veux voir qu'une seule tête ». Alignez-vous, je veux voir qu'une seule tête, la première. À partir du moment où il y en a une qui fait ça, il est dans le désordre. Et c'est ça l'expression qu'il emploie. C'est-à-dire, c'est pas nécessaire d'être dans la cour en train de frapper quelqu'un pour être dans le désordre. Il dit, à partir du moment qu'il y a une tête qui sort, c'est le désordre. Afin de comprendre ce que sont les exigences de Dieu, hein, il nous dit, on doit être à l'image de Jésus-Christ. Pas un peu à l'image de Jésus-Christ, être à l'image de Jésus-Christ. Il dit, oh là là, alors ben, on est tous dans le désordre. Ben oui, mais comprenez que Dieu est patient avec nous, hein. Et nous devons être patients les uns avec les autres. Hein? Dis, mais moi, je ne suis pas autant dans les autres que l'autre. Mais ça ne change rien. C'est la pensée de Dieu. Si nous regardons dans la Bible, il y a plusieurs manières d'être dans le désordre. Je vous donne les références parce que, à cause du temps, je vais aller plus rapidement, mais il parle d'être dans le désordre. C'est celui qui, par exemple, il décide, moi, je ne vais pas travailler, moi, je vais dépendre de la gentillesse des autres. Eh bien, dans 2 Thessaloniciens 3, versets 6 à 12, eh bien, il dit, celui-là vit dans le désordre. Hein? Et lui, il ne veut pas travailler. Dis-moi, je vais bénéficier des droits qui existent. Il dit, celui-là vit dans le désordre. L'autre extrême, c'est celui qui a reçu des dons spirituels du Seigneur, et puis qui les garde pour lui, qui ne les exerce pas, il ne fait pas bénéficier l'Église. Il ne les utilise pas pour l'édification de l'Église. Dieu lui a donné une grâce, lui a donné un don spirituel, et lui, eh ben, il s'en sert que pour s'enorgueillir, mais pas pour servir les autres. Eh bien, ça, c'est du désordre aussi. Puis, bon, entre les deux, eh bien, on pourrait avoir celui qui ne veut pas porter de charge dans l'Église, il ne veut pas s'engager, il dit, moi, je suis content d'être sauvé, moi, je viens, je mets les pieds, déjà, je viens à l'Église, c'est pas mal. Il dit, ben, celui-là, il vit dans le désordre, il n'est pas en train de penser, parce que la vie chrétienne, c'est une vie en mouvement. C'est pas du... je prends ma place et puis c'est le train qui travaille. Non, c'est un corps et il parle toujours de marcher, hein, la marche chrétienne. Vivre dans le désordre, c'est pas strictement le fait d'avoir des péchés moraux, hein, mais aussi c'est celui qui n'est pas conforme à Christ. C'est-à-dire, oui, mais c'est plus ce que c'était avant, hein, tu sais, j'ai fait beaucoup de progrès, mais c'est très bien, gloire à Dieu. Mais tu n'es pas encore dans le rang. Et donc, nous devons être patients, et donc finalement patients les uns avec les autres, hein, tous. Parce que, bon, on est en train là de se ranger, mais on n'est pas encore tous dans le rang, exactement comme il faudrait, pour être à l'image de Jésus-Christ. Il faudrait que là... comme il dit, l'expression c'est « je veux voir qu'une seule tête », et bien que les gens voient une seule tête, et ça c'est celle de Jésus. Et on est tous alignés, cachés derrière lui. Vous savez, dans une classe, on a tous fait l'école, hein, donc on sait que dans une classe, hein, le professeur est en train de faire son cours, et les 25-30 élèves sont là, ils sont présents. Mais, oui, leur corps. Mais il y en a qui sont là, mais ils sont en train de regarder par la fenêtre. Ils sont présents, mais les pensées sont ailleurs. Et dans une église aussi, on a des gens qui sont... Ils sont là, oui, ils sont là, ils sont présents. Mais les pensées, où sont-ils, hein? C'est la vie dans le désordre. Je suis en train de j'ai d'autres choses qui me préoccupe. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Lot, quand les deux anges ont pris les deux filles de Lot Et puis un ange a pris les filles de Lot par la main, et puis un autre ange a pris Lot et sa femme pour les traîner hors de Sodome. Et c'est vrai que la femme de Lot, elle marchait dans la bonne direction, parce qu'elle marchait dans la direction que l'ange entraînait. Mais elle a regardé en arrière. Et vous savez ce qu'elle est devenue ? Une pierre de sel. Et oui, marchait dans la bonne direction, mais regardez derrière. Et combien on a de chrétiens aussi où ils disent, oui Seigneur, Seigneur, oui, je viens avec toi. Hein. Et puis, ils sont en train de regarder dans le monde, ils sont regardés à autre chose, ils sont attirés par d'autres choses. Ils disent, ça c'est la vie dans le désordre. Vous savez, dans Luc chapitre 15, Jésus parle de la centième brebis qui n'était pas là. Les 99 sont rentrés, la centième n'était pas là, il a dû repartir dans le désert chercher la centième. Mais pourquoi elle n'était pas là? C'est parce que quand il fallait suivre le berger, elle a commencé à regarder ailleurs, et puis elle a traîné, et puis elle a perdu de vue le berger. Après, elle ne savait plus comment rentrer. C'est tout. C'est pas qu'elle n'était plus brebis, c'est pas que le berger ne l'aimait plus. C'est qu'elle a commencé à regarder ailleurs, elle a vu oh, une touffe d'herbe là-bas, oh là là, oh celle-là. Et puis après, tout d'un coup, les autres, ils ont tourné, et puis elle ne savait plus où ils étaient. Et vous savez, quand on est perdu, on court dans le mauvais sens. Et plus on court, plus on s'éloigne. La réalité, c'est que quand on est perdu, on tourne en rond. Hein. Mais c'est parce que j'avais les regards. Oui, je suis dans une bonne église, là, je sais que ça prêche la parole et tout ça. Oui, mais je suis en train de regarder ailleurs. Ben, je ne suis pas dedans, je suis dans le désordre. Il dit, soyez patients avec ceux qui sont dans le désordre, parce qu'il y en a toujours dans une église. Mais soyez patients avec eux, parce que on espère qu'ils vont revenir, qu'ils vont tourner les yeux vers le Seigneur et avoir les yeux sur le Seigneur. Paul dit dans 2 Thessaloniciens 3, 15, il dit d'avertir ceux qui sont dans le désordre. Il dit ne les regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Ce n'est pas avec un esprit de supériorité qu'il faut regarder ce frère, lui dire mais bon, écoute, toi tu ne suis pas comme il faut, hein, c'est pas bien. Non, non. C'est que je l'avertis, et avertir ça ne veut pas dire menacer, avertir ça veut dire lui rappeler les conséquences, lui rappeler ce que ça peut donner. Et dire écoute, la manière dont tu vis ces choses, ça ne va pas, hein, tu dois revenir. Jésus a dit, dans le cas où un frère a péché, il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Parle-lui, mais parle à son cœur. Essaie de le gagner, pas pour le condamner, dire, écoute, toi, tu es un mauvais chrétien, là, écoute, dégage. Non, c'est, écoute, ce péché dans ta vie, ça ne convient pas. Et tu dis que tu aimes le Seigneur, alors, écoute, il faut que tu l'abandonnes, il faut que tu viennes. Et il dit, reprends-le, mais avec amour. Parce que le but, c'est la restauration. Christ est mort sur la croix, c'est pour offrir la restauration. Et donc nous, si nous sommes, n'avons la pensée de Christ, eh bien nous allons encourager cette restauration. Paul dit, il donne un avertissement pour ceux qui veulent redresser un frère. Il dit, frère, si un homme vient à toi, vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Il dit, tu viens avec humilité, parce que peut-être aujourd'hui tu es celui qui est dans l'ordre et puis tu l'invites à venir, mais tu sais que toi, à tout moment, tu pourrais être à sa place et tu voudrais que quelqu'un vienne te voir. Et c'est là, c'est ça, je reconnais ma faiblesse, j'exerce de l'amour, de la patience, et c'est là que nous pouvons nous encourager. Alors oui, une église qui aime le Seigneur, c'est une église imparfaite, c'est sûr, mais c'est pas là le problème. Le problème, c'est une église où les frères et sœurs se soutiennent l'un l'autre, s'encouragent mutuellement à marcher, à vivre pour lui. Et ça, c'est exercer l'amour fraternel. C'est ça, aimer les uns, être patient l'un avec l'autre, et lui donner une chance, deux chances, trois chances, comme Dieu m'a donné des chances. Combien de fois Dieu m'a pardonné ? et je dois pardonner. Donc, ce matin, je vais m'arrêter avec cette première partie-là, et puis nous continuerons la semaine prochaine, mais cette patience de Dieu, cette patience de Dieu qui veut vraiment, qui espère. Il sait ce qu'il peut faire pour moi. Il sait où il veut m'emmener. Il sait ce qu'il veut réaliser en moi. Dieu sait qu'il est capable de le faire. Moi, j'ai du mal. Et je me dis, mais Dieu, il y en a d'autres qui sont peut-être plus fidèles que moi. Moi, je suis une tête brûlée. Moi, je suis dur. Moi, je suis... Il dit, c'est peu importe ce que toi, tu penses. Moi, je crois que je peux. Alors, laisse-moi faire. Écoute-moi. Et puis alors, si c'est le comportement de Jésus vis-à-vis de nous, alors c'est le comportement de chacun d'entre nous, avec les uns et les autres. Ça ne veut pas dire qu'on baisse la barre pour que tout le monde passe. Hein. C'est un peu le sentiment qu'on a avec certains examens, c'est qu'ils baissent la barre pour qu'il y ait plus de réussite. Dieu ne baisse jamais la barre. Mais il a dit, mais je fais tout pour t'aider à arriver à la hauteur. Je veux t'aider. Laisse-moi faire, viens à moi. Alors il nous prend pécheurs, rebelles, souillés, où on ne pensait même pas à lui, et ce qu'on pensait de lui était faux, et il nous récupère là. Et puis il nous travaille, comme une motte d'argile, qui n'a aucune forme, aucune valeur, qui n'a rien en soi, mais une fois entre les mains du potier, tout d'un coup elle prend de la forme, de l'utilité, et même devient un objet d'admiration. Pas pour le pot, mais pour le potier. Que le Seigneur nous aide. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ce fait que nous avons un Dieu comme toi. Tu n'es pas l'invention d'un homme, mais tu es le Créateur de l'homme. Et c'est à nous de venir à toi. Père, nous te prions de nous, déjà de jouir de cette patience que tu as avec le pécheur et avec les enfants, tes enfants. Nous voulons aussi, si nous sommes tes enfants, exercer cette même patience avec les autres, afin qu'ils découvrent ta patience en nous. Père, donne-nous la foi de croire afin d'être patient. Père, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous prions. Amen.